Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, la mode des reboots.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Aujourd'hui, avant de parler de Hawaii Five-O, nous allons parler des reboots, retours et remakes en tout genre. Une véritable mode, mais est-ce vraiment une mode? On va s'attarder un peu là-dessus, et ça en vaut la peine, car des reboots, vous en regardez sans même le savoir. Et oui, parce que SWAT, par exemple, la nouvelle série d'action policière avec Shermar Moore dans le rôle de Hondo Harrelson, de l'équipe d'intervention de choc de la police, la série qui fait plus de 4 millions de téléspectateurs sur TF1, eh ben c'est un reboot. Eh ben oui, alors ça, en effet, hein, SWAT ou Section 4 en français, quand la série a été diffusée sur TF1 en 1976, elle datait à l'origine de 1975. Et elle était avec Robert Urich et Steve Forrest dans le rôle de Hondo. Elle a même donné lieu à un long métrage en 2003 avec Samuel Jackson. Étonnamment, la série n'avait duré qu'une petite saison et demie. Elle a été stoppée en raison de sa trop grande violence, mais elle avait laissé visiblement une très forte impression. Peut-être justement parce qu'elle était très violente pour l'époque. Et je pense que très peu d'entre vous regardent SWAT avec Shermar Moore en comparant cette version avec l'original. Ou même en ayant vu l'original. Non, hein? Ben voilà, vous avez en main l'une des explications de cette recrudescence des reboots de séries. Si un concept, un style pour une série ont marché des années durant, s'ils ont bien fonctionné, pourquoi ne refonctionnerait-il pas une fois mis au goût du jour? Dès que des diffuseurs cherchent à sécuriser un petit peu leur nouvelle série, noyée dans le flot de nouveautés incessantes, parce que je vous rappelle qu'il y en a plus de 500 nouvelles saisons par an rien qu'aux États-Unis, pour que leur série sorte un peu de la masse, ils vont tout naturellement tenter de l'associer à une marque déjà un tout petit peu connue, qui vous dit quelque chose, même si vous ne l'avez pas vue, et qui va forcément attirer la curiosité. En gros, ils vont surfer sur la notoriété d'une marque connue. Le reboot, c'est non seulement une série qui a déjà fait ses preuves, mais qui va générer immédiatement du buzz, rien qu'avec son titre. Une mode, donc, bah, c'est plutôt un cycle, hein, pour être très honnête, un cycle qui revient très régulièrement. Actuellement, les projets sont légion, de La vie à 5, le mélodrame avec les orphelins Salinger, au Banana Splits. Bah oui, je sais pas si vous vous souvenez, les Banana Splits, c'était des personnages loufoques créés par la firme Hanna-Barbera. Mais on passe aussi par Phoenix Rising, qui sera un reboot de Captain Soldier et des Soldats du Futur, et à nouveau Kung Fu, la série avec David Carradine, en 1972. Elle avait déjà connu d'ailleurs une suite, Kung Fu, la légende continue avec le même David Carradine, en 1993. Et il y aura aussi un énième reboot de Beverly Hills, parce qu'il avait déjà connu une nouvelle incarnation plus jeune et contemporaine en 2008. Elle aurait duré quand même 5 saisons. Il y a un pilote d'une nouvelle version des 4400 qui est en prévision, la série mystérieuse qui nous a subjugués en 2004. Il y a Twilight Zone, la quatrième dimension, une anthologie qui ne date pas d'hier, mais même d'avant-hier, puisqu'elle date de 1959, elle a duré 5 saisons. Mais la version qui vient d'être relancée avec le réalisateur Jordan Peele à sa tête est la quatrième relance de cette franchise. Il y a déjà eu des versions appelées en France du nom des chaînes qui les diffusaient, la cinquième dimension en 1985, ben oui c'était la 5, et la treizième dimension présentée par Forest Whitaker en 2002, qui était diffusée, je vous le donne en mille, sur 13e rue. Et à cela se rajoute même le film de Steven Spielberg, Joe Dante, John Landis et George Miller qui reconstituait certains épisodes de la série. Et pour ne pas être en reste, Steven Spielberg et les showrunners de Once Upon a Time prévoient une nouvelle saison de Amazing Stories, l'anthologie un peu décevante que Spielberg avait lancée en 1985. Autre projet de reboot, celui de Miami Vice, il est toujours en développement depuis 2017. Le remake de Hellworld, lui, par contre, le soap lesbien de 2004, est prévu pour cette année. Et il y a même Profit, qui est en développement, et un remake de Psych et de Queer as Folk. Tout ça, c'est dans le futur, avec éventuellement des projets qui ne se feront jamais. Mais actuellement à l'antenne, on peut voir des nouvelles versions de Charm, la série avec Shannen Doherty et Alyssa Milano qui a duré de 1985 à 2006 et qui a bercé toute une génération. Bon, une génération principalement de petites filles qui se faisaient la guerre pour décider qui était la meilleure des trois sœurs sorcières. Bon, pour moi c'était Prue, mais enfin bon, chacun son truc. Il y a une nouvelle version aussi de Roswell, d'après la série de 1999, avec des teenagers extraterrestres infiltrés parmi les habitants de la ville de Roswell. Il y a une nouvelle version de MacGyver avec Lucas Till dans le rôle de l'homme au couteau suisse précédemment incarné par Richard Dean Anderson à partir de 1985. Et on a déjà évoqué ici Magnum avec Jay Hernandez et Dynasty avec Grand Show en Blake Carrington. Et vous attendez peut-être la saison 2 de Lost in Space sur Netflix dans l'ignorance totale qu'il s'agit là d'un reboot d'une série classique datant de 1966. Eh ouais, cette série était due à Irwin Allen, le roi de la science-fiction à grand spectacle, avec son sous-marin Neptune de voyage au fond des mers et son chronogyre dans Au cœur du temps. La dite série, Lost in Space, avait pour vedette Guy Williams, l'inoubliable Zorro de Disney. Elle est inexplicablement demeurée en permanence dans l'imaginaire de générations d'Américains. Je dis inexplicablement parce que, franchement, elle était incroyablement infantile. Enfin, c'est peut-être justement grâce à ça qu'elle reste dans l'imaginaire des Américains. Cela vous explique d'ailleurs pourquoi la version contemporaine sur Netflix est par moments outrageusement dramatique. Le but était bien de faire comprendre que l'on était non plus dans des histoires de robots répliques ridicules et au méchant Dr. Smith hystérique, mais dans une série contemporaine. Même le film de 1998 avec Matt LeBlanc et William Hurt était bien plus sérieux que ne l'était la série de 66. Ça, c'est les reboots du moment. Mais je vous propose de reculer d'une décennie. On va découvrir des titres prestigieux qui ont, eux aussi, été relancés, avec comme résultat souvent un échec qui frôle la catastrophe industrielle. Au début des années 2000, on a eu droit à des reboots de Super Gémie en 2007 et de Drôle de Dame en 2011. Toutes deux n'ont pas dépassé 8 épisodes. Abby, Yves et Kate, les nouveaux anges de Charlie, les nouvelles drôles de dames, ont été rejetés d'emblée par les spectateurs, malgré une très belle campagne de promotion, un lancement spectaculaire, des couvertures de magazines, etc., etc. Ben quand même, les nouvelles drôles de dames. Eh ben non, la série est annulée dès le quatrième épisode, alors que le public avait quand même réservé un accueil triomphal au remake cinéma avec Lucy Liu et Drew Barrymore. Quant à Michelle Ryan, elle avait beau incarner une bien badass Jamie Summers, la fille qui valait 3 milliards, ben l'appétit du public fut général et sans appel. La série aussi s'arrêta très très vite. Remontons encore un peu le temps. Alfred Hitchcock présente a connu en 1985 un remake qui mêlait des histoires inédites et réadaptées, le tout avec des présentations d'époque du maître Hitchcock lui-même, mais des présentations colorisées, parce que la série d'origine était en noir et blanc. Au-delà du réel, a repris le contrôle de votre téléviseur avec 7 années de nouvelles histoires de science-fiction, s'ajoutant déjà aux 2 saisons de 1963. On a pu voir de nouvelles versions de L'Homme de Fer en 2013 avec Blair Underwood, qui s'installait dans le fauteuil de Raymond Burr, mais pendant uniquement 9 épisodes, enfin c'était déjà 9 épisodes de trop, à mon avis. Et on a pu voir également Flipper le Dauphin en 1995 jusqu'en 2000, après le triomphe de la version de 1964. Il y a eu le retour du Saint avec Ian Ogilvy. Il y a eu la croisière s'amuse qui repartait sur les mers quelques 20 ans après le lancement du Pacific Princess. Et les Incorruptibles ont bénéficié d'une nouvelle incarnation en couleur cette fois-ci. C'était en 1993, Tom Amandes a succédé à Robert Stack dans le rôle d'Eliot Ness. Et même l'école des arts du spectacle, qui avait fermé en 1987, a réouvert ses portes en 1997 avec une nouvelle série de Fame. Le fugitif, lui, s'est remis à fuir, mais c'était pour une seule saison, en 2000. Le prisonnier numéro 6 s'est réincarné, lui, en Jim Caviezel, en 2009. Et ce qui était Bonanza est devenu Ponderosa en 2001 et racontait le passé de la famille Cartwright et de leur avis au ranch de Ponderosa, justement. Kojak, lui, a repris du service en 2005. C'était sous les traits de Ving Rhames. Alors que pour mémoire, c'était quand même Telly Savalas qui avait la sucette en bouche de 1973 et 1978. Par contre, Rhames, lui, continuait de prononcer la petite réplique fétiche de Savalas, « Who loves you, baby ?» Mais par contre, il n'y avait plus Tatou qui hurlait « The Plane » dans la nouvelle version de l'Île Fantastique en 1998. Parce que cette nouvelle série, créée par Barry Sonnenfeld, se reposait beaucoup plus sur sa star, Malcolm McDowell, et sur des éléments franchement surnaturels dans le but de captiver le spectateur. Bon, ça n'a pas beaucoup duré. Alors encore plus pathétique maintenant, on a tenté de rajeunir le trappeur Daniel Boone avec, en 1977, un young Daniel Boone qui n'aura encombré les ondes que 4 semaines avant de disparaître. Il y a eu un young Maverick en 1979 qui tentera de relancer une version plus jeune du célèbre joueur de poker du vieil Ouest sauvage qui était immortalisé par un James Gardner débonnaire avant de l'être au cinéma aux côtés de Mel Gibson. Et Perry Mason, lui, fut aussi un nouveau Perry Mason dans 15 petits épisodes où Monty Markham remplaçait Raymond Burr, qui avait tourné, lui, quelques 271 épisodes de la série d'origine. Ouais, mais ça, c'est les Américains, vous allez me dire. Eh ben non. En France, on a aussi fait des remakes et des reboots. Parce que les nouvelles aventures de Vidocq avec Claude Brasseur, eh ben, elles font suite au Vidocq avec Bernard Noël. Les deux séries sont très différentes. La première version est en noir et blanc, elle dure une demi-heure et elle est extrêmement dramatique. La version suivante, elle dure une heure, elle est en couleur, elle est bien plus dynamique. Et Tanguy et la Verdure, ben, ils ont tout d'abord été le héros d'une série de 1967 à 1970, avant de vivre une dizaine de nouvelles aventures en 1988, et c'était les nouveaux Chevaliers du Ciel. Bref, on peut le dire, tout a été pratiquement remaké, rebooté. Bon, et attention, hein. Là, je vous parle des reboots et des remakes, hein. Je vous parle de relancer une série. On peut aussi, maintenant, si vous voulez, évoquer les suites. Allez, on y va, hein. En ce moment, il y a Will & Grace, qui triomphe à nouveau 11 ans après de la première version. Il y a Murphy Brown, avec une saison 11. Bon, elle a été, elle, un échec d'audience, cuisant depuis la rentrée 2018. Ben, ou bien, il y a eu Twin Peaks, 26 ans après la mythique série d'origine. Il y a eu le retour de X-Files, réouvert avec Mulder et Scully, les mêmes, 14 ans après leur enquête finale à la télévision. Il y a eu le retour des visiteurs extraterrestres de V, qui tentèrent à nouveau d'envahir la Terre en 2009. Le retour de Prison Break, dont je vous parlais dans le précédent Previously. Il y a eu le nouveau héros de 24 heures chrono avec 24 Legacy. Le retour de Doctor Who, qui est relancé en 2005 après l'arrêt de la série classique en 1989. Et il y a même eu un Mission Impossible 20 ans après. Là, c'est dans le titre, c'était carrément 20 ans après. Il y a eu les nouveaux Chapeaux Melon et Bottes de Cuir, les New Avengers, qui ne resteront pas nouveaux très longtemps en France, mais en fait garderont leur titre d'origine de Chapeaux Melon et Bottes de Cuir, même si dans cette nouvelle coproduction avec la France, 8 ans après Tara King, Steel est accompagné de Purdey, Tiana Lemley, et de Gambit, Garrett Hunt, qui lui n'avait pas de bottes de cuir, hein, que je sache. Il y a une suite de L'Homme à la Rolls, Amos Burke, qui enquêtait déjà à l'époque de l'ORTF en 1965. Et il était toujours interprété par Gene Barry pour son retour en 1995, vous vous rendez compte ? Continuons, il y a eu Max la Menace, toujours incarné par Don Adams, dans 7 malheureux petits épisodes en 1995, après les 138 de la version mythique de Mel Brooks et Buck Henry de 65 à 70. Et le commissaire Moulin, police judiciaire, alias Yves Régnier, a rempilé 5 années après son arrêt. Columbo en a fait de même, il a repris la route des studios Universal, et les Gilmore Girls ont connu 4 nouveaux épisodes, et on attendra ou pas la 5e et dernière saison de A Fuller House, à savoir la suite de La Fête à la Maison, la sitcom des années 90, qui s'appelle elle aussi La Fête à la Maison 20 ans plus tard, comme avec Mission Impossible. Et vraiment, si vous voulez compiler toutes les suites après la suite de Dallas, il y a eu Le Monde de Riley, il y a eu la suite de Incorrigible Cory, qui est achevée après 3 saisons, tout comme en 2009, le complexe immobilier de Melrose Place a connu une nouvelle génération de locataires. Et c'était pendant 18 épisodes, et on voyait d'ailleurs le retour de personnages iconiques comme Amanda Woodward, Joe Reynolds et le docteur Michael Mancini, tous interprétés par les mêmes acteurs que dans la série d'origine. Ah oui, ça en fait hein, quand même, hein, des remakes et des reboots. Hein. C'est pas simplement 3-4, hein, ça en fait un paquet, et ça date déjà longtemps. Mais le quasi-champion incontesté des reboots en ce début des années 2000, c'est Michael Knight lui-même. lui et sa voiture Kit ont connu plusieurs suites, reboots et remakes, avec ou sans David Hasselhoff, c'est selon. Le dernier en date, date de 2008. Il s'intitule « Le retour de K2000 ». Il a pour héros le fils de Michael Knight, avec une petite apparition de David Hasselhoff dans le téléfilm qui a permis de lancer la série. Il y a eu 17 autres épisodes. Et si ce nouveau Knight Rider n'a pas suscité une quelconque frénésie aux États-Unis, elle a fait un carton d'audience chez nous sur Energy 12, donc auprès d'un public majoritairement jeune qui n'avait que entendu parler de la version des origines. Et c'est que, avant cela, on a tenté d'essorer le plus possible la franchise K2000, tant on s'est bien rendu compte que le concept était absolument fascinant et pouvait encore fonctionner avec quelques remises à niveau. Alors d'abord, en 1991, il y a eu un téléfilm unitaire, K2000, la nouvelle arme, avec toujours David Hasselhoff, et une nouvelle voiture savante, c'est la nouvelle arme du titre. Ce téléfilm unitaire aurait dû donner naissance à une nouvelle série, mais en fait, non, il n'y en a pas eu, c'est resté au stade de téléfilm unitaire. 3 ans plus tard, on retentera le coup avec Knight Rider 2010. Le 2010 du titre était pour donner une ambiance futuriste au projet, qui n'avait au final que peu de lien avec la série. On était plus dans une sorte de Mad Max avec une voiture qui parle. Là encore, le téléfilm restera, heureusement, sans suite. La 3e tentative de retour aura presque été la bonne, et c'est sans nul doute la plus étonnante. En 1997, fut lancée la série Team Knight Rider. En français, c'était nom de code TKR. Elle durera quand même une saison de 22 épisodes. Bon, vous imaginez les Power Rangers, et vous imaginez maintenant les Power Rangers à la sauce K2000. Bon ben voilà, ça vous donne une idée de ce qu'était cette série. Dans nom de code TKR, ce n'était plus un héros solitaire, mais 5 coéquipiers avec autant de voitures, de gadgets, d'explosions, etc. K2000, c'est donc, si on compte bien, 22 ans de reboots. La plupart ont sombré dans l'oubli et on ne désespère pas de voir une nouvelle version de la série qui sera donc tout sauf vraiment nouvelle. Donc, à m'écouter, relancer une série, une suite ou un reboot ou même un remake, ça serait une simple stratégie marketing vouée à l'échec. Eh ben non, pas systématiquement. Parce que d'abord, il y a pas mal de séries que j'ai mentionnées qui ont connu un petit succès quand même. Et ensuite, parce qu'il y a aussi des triomphes. La série policière Dragnet, Badge 714 en VF, était produite de 1951 à 1959. Elle a été longtemps le maître étalon pour toutes les séries policières, parce qu'il y avait une rigueur dans les enquêtes et une froideur avec les enquêteurs. En janvier 1967, la série est ressuscitée sous le titre Dragnet 67, tombe sous le sens, et elle dure 4 saisons. Jack Webb était à nouveau le producteur de la série et le seul réalisateur. Il y incarne à nouveau le sergent de police Joe Friday. Et Dragnet reviendra encore pour 52 épisodes entre 1989 et 1990 sous le titre Vic Daniels, flic à Los Angeles. Puis en 2003, dans encore une autre version produite par Dick Wolf, le producteur des séries policières ou héros très rigoureux Law and Order New York District. Donc Dragnet, ça a été véritablement un succès année après année. Et la saga Star Trek, elle aussi, est un cas à part, puisque c'est tout l'univers imaginé dans la série de 1966 qui donne naissance à d'autres versions, soit dans le futur, comme Star Trek The Next Generation et Star Trek Deep Space Nine, soit dans un autre quadrant, c'est-à-dire une autre section géographique de la galaxie, avec Voyager, soit dans le passé, avec Star Trek Enterprise et Star Trek Discovery. Et il y a eu le cas incroyable de Battlestar Galactica, la prestigieuse saga de space opéra créée par Glenn Larson en 1978, qui était quand même un peu un Star Wars de la télévision. Mais elle deviendra en 2003, sous la houlette de Ron Moore, une saga qui a réinventé carrément tout le space opéra et demeura un vrai chef-d'œuvre. J'espère qu'on en parlera un jour dans Previously quand même, hein. En conservant ce qui était le plus passionnant dans la série d'origine et en faisant preuve d'un véritable travail de création et de reconception, le remake a très largement surclassé la sympathique mais bien naïve version post-Star Wars. Maintenant, j'espère que c'est clair pour vous. Pour les reboots, on n'adopte pas le principe « on prend les mêmes, on recommence ». C'est justement « on ne prend pas les mêmes et on recommence ». Mais c'est une évidence. Si vous regardez toutes ces séries-là, Battlestar Galactica, Lost in Space ou Dynasty, vous n'avez sans doute jamais vu la version originale et vous appréciez ces séries pour ce qu'elles sont, une découverte pour vous. Et si on vous sort l'argument tarte à la crème comme quoi il n'y a plus de nouvelles idées et que toutes les séries maintenant sont des remakes, il faut rappeler qu'il y a quand même, comme je vous l'ai dit, carrément rien qu'aux États-Unis, plus de 500 séries diffusées. Donc, les remakes, Ils sont mathématiquement plus nombreux qu'avant, ils demeurent néanmoins une goutte d'eau dans l'océan de la création télévisuelle. Et si vous regardez aussi Hawaii Police d'État, enfin Hawaii Five-O sur M6, qui dure tout de même depuis 9 saisons et 168 épisodes, la série avec Alex O'Loughlin dans le rôle de l'infatigable Steve McGarrett, vous n'êtes pas censé ignorer que, par le passé, il y a eu un autre Steve McGarrett, incarné par le non moins infatigable Jack Lord. Non ? Vous savez pas ? Ah bon alors, suivez-moi. Allez hop, direction Hawaï, le 50e état de l'Union, le paradis sur Terre. Parfaitement synchronisé à ce roulement de tambour, une énorme vague déferlante. C'est le générique le plus musclé de toute l'histoire de la télévision. Il est carrément inoubliable. Un morceau absolument frénétique de Morton Stevens, devenu célèbre dans le monde entier. Ce tempo trépidant est synchronisé à des images de natifs de l'archipel, à des plans de l'île d'Hawaï, à des images des avions atterrissant à l'aéroport d'Honolulu, puis un incroyable zoom avant qui nous amène au sommet d'un building, le Lika'i Hotel, où se tient le héros, esquissant un vague sourire, dominant son île et y appliquant sa loi, Steve McGarrett. Nous sommes en 1968 et ce générique, réalisé par Reza Badihi, qui tourna un nombre incroyable d'épisodes de série allant de Mission Impossible à Buffy, fit l'effet d'une véritable bombe dans le monde très conservateur des policiers du petit écran. Il était non seulement accrocheur et incitait le spectateur à ne plus manquer une seule des 48 minutes qui suivaient, mais il donnait le ton pour tout le reste du style visuel de la série. Bon, sans être autant syncopé qu'avec cette musique, les images étaient rapides, de style vif, avec une multitude de zooms, coups de poing et des mouvements ultra dynamiques, avec des poursuites et des bagarres. Le but de Leonard Freeman, le créateur de la série, était clairement de secouer le monde des séries télé, alors en pleine espionnite aiguë et qui subissait de plein fouet la James Bond mania. Ce nouveau look lui est apparu comme indispensable pour sortir une série comme la sienne, de la torpeur. Il m'a fallu 3 ans pour convaincre CBS de financer la série. J'ai attendu parce que j'étais déterminé à décrocher la participation d'un grand studio et à apporter un nouveau look à la télévision, a-t-il raconté. Les 3 années n'étaient pas inutiles face à l'importance financière du projet qu'il apportait. En effet, Freeman tenait absolument à ce que le tournage de sa série, Hawaii Five-O, s'effectue sur place à Hawaii même. Et pas en studio à Hollywood. Bon, ça peut vous paraître évident comme ça, mais c'était jusqu'alors absolument pas le cas. La série Hawaiian High, ou Intrigue à Hawaii au Canada, bon, je dis bien au Canada parce qu'elle est restée complètement inédite en France, date de 1959. Elle a duré 4 saisons et elle prétendait raconter les exploits de détectives privés à Hawaï, avec à leur tête Tom Lopaka, interprété par Robert Conrad. Eh ouais, monsieur James West en personne dans un de ses tout premiers rôles à la télévision, celui qui l'a imposé en tant que star bankable du petit écran. Lui et Anthony Eslay dans le rôle de Tracey Steele opéraient depuis le grand Palace Hotel du Hawaiian Village, avec comme comparse un chauffeur de taxi aux chemises hawaïennes un peu exubérantes, Kazuo Kim, et la blonde idiote de service, chanteuse et photographe, Cricket, incarnée par Connie Stevens. Et à leur côté, un certain Philip Barton, incarné par celui qui deviendra la coqueluche de toutes les jeunes américaines de l'époque, Troy Donahue. Bon, c'était une série fun, sans aspérité, efficace, ça bougeait bien, mais ce n'était pas du tout tourné à Hawaï. Et Leonard Freeman, lui, tenait à ce que sa série soit tournée entièrement sur les lieux mêmes. Il avait d'ailleurs une bonne raison à cela. Hawaii Police d'État, Hawaii Five-O, se devait de proposer un contraste saisissant. Confronter le bien et le mal de façon spectaculaire, positionner les méchants et les bandits les plus malfaisants dans un cadre idyllique, paradisiaque. Les tueurs, voleurs et violeurs seraient alors opposés à une unité d'élite de la police qui n'allait avoir aucune pitié à leur égard, et ce contraste était encore plus réussi si la toile de fond des poursuites, des crimes et de l'enquête était composée de plages de sable blanc, d'un ciel bleu immaculé, de palmiers impressionnants, d'un soleil permanent, le paradis sur Terre. Donc, suis-moi bien, face à ces bandits qui souillaient le paradis, Freeman frappait très fort. Non pas de gentils détectives et non pas de simples policiers, mais une unité d'élite. Le département 5-0 de la police d'Hawaï, un département complètement fictif, bien sûr, qui était composé de flics de choc, les plus durs de la police, et qui ne répondait qu'au gouverneur. Au gouverneur et à Dieu. Et encore, même eux, ils ont des difficultés quelquefois à les maîtriser, disait-on dans le pilote de la série. Avec un tel concept de base, Freeman avait de quoi faire une série spectaculaire, bénéficiant d'un décor enchanteur et doté de personnages qui ne reculaient devant rien et assuraient donc le frisson et l'action. Eh ben, ça a été bingo. Malgré le coût de l'opération et la logistique absolument effarante d'un tel projet, la CBS a fini par craquer. Convaincue par un pilote, a lancé la série à la rentrée 68. Et ne l'a arrêtée que 12 saisons plus tard. Hawaii Five-O, ou Hawaii Police d'État, est devenue une des plus longues séries policières de prime time de toute l'histoire de la télévision. Pour incarner Steve McGarrett, à la tête de l'unité 5-0, Freeman visait Gregory Peck. Mais bon, il a fait affaire en fait avec un autre acteur qu'il avait vu dans un James Bond qui tenait le rôle de Felix Leiter, Jack Lord. Mâchoire carrée, mèche au vent, Lord devint très vite le symbole et l'arme de la série. Encore plus dur que les crapules qu'il affronte. Dévoué corps et âme à sa cause, sans affect, un solitaire, sans femme, ni conquête du moment, mais dirigeant seul son équipe et prenant seul toutes les décisions. Combattre le crime était pour lui beaucoup plus qu'un travail, c'était une mission, une obsession. Bon, cet aspect un peu implacable du personnage a fini d'ailleurs par déteindre sur Jack Lord lui-même. En coulisses, l'acteur se voyait complètement investi de la même mission que son personnage et demeurait intraitable avec le personnel, réalisateur ou technicien. Son autorité approchait celle de James Cameron, écrivait une journaliste de Entertainment Weekly. À la mort de Leonard Freeman en 1974, Jack Lord dictait comment réalisateur et directeur de la photo devaient travailler. Il refusait toujours obstinément, non seulement d'apparaître dans une autre série en prenant le même rôle, bon, en clair, il ne figure jamais dans le moindre épisode de Magnum, mais il refusait aussi obstinément à ce que James MacArthur accède au rang de co-vedette dans la série. Il est d'ailleurs resté vivre à Hawaï après la fin de la série et a même envisagé de devenir gouverneur. D'ailleurs, si on se fie à sa biographie officielle, son âge ferait qu'il serait sorti diplômé du lycée à 7 ans. Donc le mec, il a peut-être un peu menti, on va dire. Hein. Sa renommée est telle qu'il y a un Jack Lord Day à Hawaï. Jack Lord est décédé en 1998. Mais il a marqué complètement la série. Dès le deuxième épisode, le premier après le pilote, on a modifié la distribution. Et on attribue à un jeune acteur, James MacArthur, le rôle de Danny, l'adjoint de Steve McGarrett. Plus jeune que lui, plus dynamique, il attirait les spectateurs plus jeunes, donc. Et il inculpait toujours les méchants à la fin de l'épisode, avec la phrase rituelle que lui lançait McGarrett, « Book them, Dano ». Les autres membres de l'équipe du 5-0 reflétaient le mélange ethnique, avec Zulu dans le rôle de Kono Kalau, et Kam Fong dans le rôle de Chin O'Kelly, qui d'ailleurs abandonna la série après 10 années de service. Son personnage a été abattu lors d'une enquête. Cette version d'origine de Hawaii Five-O a recueilli un succès considérable, un triomphe devrais-je dire. 3 saisons durant et consécutivement, elle a été la première série policière en audience. Elle est même arrivée 3e de toutes les séries en 1972 et elle a remporté 3 Emmy Awards. A tel point qu'après 8 saisons, la CBS décida de faire construire des studios permanents à Diamond Head, à Honolulu, pour assurer la production et le tournage de la série. Parce que jusqu'alors, le tournage était hébergé dans des vieux hangars à bateaux sans air conditionné. C'était d'ailleurs un peu pour rentabiliser toute cette infrastructure extrêmement coûteuse que la série Magnum a été créée. Au moment où la série se termine, McGarrett finit par mettre sous les verrous Wofat, le cerveau du syndicat du crime que l'infatigable policier tentait de coincer depuis sa première apparition en 1970. Une des images finales de la série restera celle de Wofat, derrière les barreaux, et McGarrett tenant symboliquement la clé de sa cellule. Hawaii Five-O, ou Hawaii Police d'État, comme on appelait la série en France sur la toute nouvelle chaîne FR3 dura donc 12 saisons et 284 épisodes. Elle fut cependant perçue comme véhiculant une morale limite réactionnaire, avec une Amérique triomphante et dominante, avec un Margaret toujours en costume cravate face aux autochtones, et la série abordait souvent le trafic de drogue, la guerre du Vietnam, la contestation étudiante. Cet aspect des choses ne pouvait évidemment pas passer le cap des décennies à venir. C'est en partie la raison pour laquelle cette série, d'une durée record, est de nos jours quasi invisible, sauf en DVD. C'est aussi pourquoi elle est devenue la série idéale à relancer. Que à part la musique de générique, le nom de certains personnages et la fameuse phrase « Book them, Dano », la nouvelle version qui a démarré à la rentrée 2010 est véritablement une réinvention. L'exemple parfait de ce qu'un reboot peut apporter. Un regard entièrement neuf sur un concept qui a fonctionné par le passé. Rompant avec la malédiction des reboots qui se plantent en audience, le créateur Peter Lenkoff part d'une connaissance et d'une affection revendiquée pour la série d'origine. Et il s'est associé à deux créateurs stars, Roberto Orci et Alex Kurtzman. C'est eux qui étaient déjà à la tête de Fringe et du long-métrage de Star Trek de J.J. Abrams. Depuis, ils ont produit Sleepy Hollow, Scorpion et la dernière version de Star Trek, Star Trek Discovery. C'est en raison de la mort de son père que McGarrett, interprété par Alex Laughlin, accepte de diriger une section spéciale de la police d'Hawaï, alors qu'il est lui-même un mercenaire féroce, ancien officier de la Navy et de ses services de renseignement. À ses côtés, Danny Williams est maintenant incarné par Scott Caan, le fils de James Caan, qui insuffle à son personnage un humour et une nonchalance inédites. À peine sorti du dernier épisode de Lost, qu'il tournait sur l'île, que Daniel Day-Kim est arrivé sur Hawaii Five-O dans le rôle de Chin-O. Et l'actrice Grace Park, déjà habituée aux reboots en ayant été boomer la nouvelle version de Battlestar Galactica, interprète à nouveau un rôle précédemment tenu par un homme, celui de Kono, qui était tenu par Zulu. Tous les personnages ont ici un passé bien établi et leur personnalité est au cœur de la série. Le passé de McGarrett est exploré durant la première saison. On comprend d'ailleurs que c'est Wofat, à la tête des Yakuza japonais, qui a fait tuer ses parents. Wofat, interprété par Mark Dacascos, sera d'ailleurs emprisonné, s'évadera et se fera tuer par McGarrett dans la saison 5. On apprendra aussi les raisons qui ont conduit à évincer Chin-O des forces de police, injustement accusé de corruption. Par la suite, Masioka de la série Heroes et Rory Garcia de Lost ont aussi intégré l'équipe de Hawaii Five-O. Solide dans ses audiences, la série en est maintenant à sa 9e saison, avec encore un peu plus de 8,5 millions de téléspectateurs en moyenne, contre les presque 11 millions de sa première année. Cependant, un tsunami a frappé la série en 2017. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un scénario d'un épisode, mais d'un petit scandale qui va causer le départ de deux de ses piliers. En effet, après de longues négociations, Daniel Day-Kim et Grace Park quittent la série à la fin de la 7e saison. Tous deux tentaient d'obtenir un salaire égal à celui de Alex Laughlin et de Scott Caan. Et ce n'est que justice, parce qu'ils figurent depuis le début sur toutes les couvertures de magazines, et que la série est bien plus chorale que ne l'était la version des origines, avec le Steve McGarrett de Jack Lord. Malgré les négociations, on a continué de leur proposer un salaire 15% plus faible. Même si diffuseurs et producteurs ont publié des messages vantant les mérites de l'acteur et de l'actrice, de leurs 7 années, de leurs 168 épisodes tournés, il a été question quand même de traitement inégal pour des acteurs asiatiques américains. La séparation qui s'en est suivie semble toujours très difficile. C'est un sujet qui n'est évoqué encore ni par les uns ni par les autres. Actuellement, la nouvelle version de Hawaii Five-O est toujours à l'antenne, prouvant ainsi que les reboots, ça peut bien marcher, des années durant, si on y insuffle suffisamment de personnalité pour en faire une création singulière. Allez, aloha! Alors, les reboots, valables ou pas, bien ou pas, c'est pas à moi ici de vous le dire, mais si vous souhaitez écouter des arguments de bonne et de mauvaise foi sur le sujet, eh bien écoutez le podcast Climax, lui aussi podcast de télé-loisirs, qui a débattu sur le sujet, le complément parfait de ce défrichage de terrain. La semaine prochaine, pour célébrer le lancement des derniers épisodes de Game of Thrones, je vous inviterai sur le tournage de la série. Carrément! Eh ben oui, on se refuse rien à Previously. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.